Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanu et bienvenue dans cette 29e émission.
Édition 2023.
Au cours du précédent épisode, après le départ de porteur de Taiohae, nous avions vu le lieutenant Gamble le remplacer. Nous avions vu comment la vie ordinaire des Enana était perturbée par les tensions entre les Américains restés sur place et des Anglais qui veulent les chasser. Cette émission-ci va nous montrer comment les choses ont empiré jusqu'au départ catastrophique de Gamble. Le 5 et le 6 avril 1814, donc, de très fortes pluies inondent le village US à Arkapehi et détruisent en partie les jardinets qui fournissaient pourtant melons et concombres. Les hommes de Gamble transportent leurs biens sur les navires au fond desquels on relève 60 cm de hauteur de pluie avant le pompage. Voulant faire d'une pierre deux coups et désespérant de voir porteur revenir, Gamble commence le chargement des navires en vue d'un départ définitif. Ça fait déjà 4 mois, presque 3 mois et demi que porteur est parti. Le 14 avril, on recommence à gréer les navires, c'est-à-dire
à réinstaller les gréements, cordages, mâts et voiles.
Le Sir Andrew Hammond est armé de 14 canons et le Seringapatam de 18 pièces variées. On repeint les navires en utilisant de l'huile de noix de Bancoul, Amma, en substitut d'huile de lin. Un bon truc si un jour l'huile de lin vient à manquer aux Marquises. Du 28 avril au 1er mai, une grande fête Kohika se tient dans la vallée. On y consomme plus de 300 porcs et le poisson pêché auparavant dans cette perspective. Un tapu interdisant de blesser quiconque pendant la Kohika ayant été établi, Gamble y laisse aller les hommes qui le désirent. Tout se passe sans problème. Nous avons déjà parlé de ces tapous établis justement lors des fêtes pour permettre à tout le monde de venir y participer sans crainte. Le 2 mai, en manque d'encre d'amarrage, Gamble fait plonger un Enana à 5 mètres de fond pour en récupérer une dont la corde ou la chaîne avait cassé. On le récompense d'un harpon et d'une dent de cachalot, ce qui prouve que Gamble en détient encore beaucoup et, encore une fois, que les marins américains ne savent pas nager ou plonger puisque Gamble fait appel aux Enana. À partir de ce jour-là, pourtant, Gamble va sentir le danger se resserrer autour de lui et de ses hommes. Ce danger provient essentiellement des Anglais, ceux qui ont été faits prisonniers lors de la capture de leur navire et que Porter a gardé avec lui car il lui faut bien aussi des hommes pour les manœuvrer. Le 3 mai, Gamble découvre que la voile de la chaloupe a été dérobée par le second maître Belcher. Le 4 mai, Gamble apprend d'un matelot que ce même Belcher et 4 prisonniers de guerre anglais projettent de se mutiner ou de prendre la fuite sur un des navires. Gamble fait retirer toutes les armes du camp et du Seringapatam et les fait porter sur le Sir Andrew Hammond où il réside. Ceci nous rappelle que tous les prisonniers anglais des navires capturés n'avaient pas été libérés après la capture de leur navire, comme j'en avais parlé dans une émission précédente. Les Américains en avaient gardé un certain nombre qui leur servaient à exécuter les travaux difficiles. Ils étaient toujours sur le point de s'évader si la possibilité se présentait. Et comme les Américains sont désormais peu nombreux, ils vont en profiter. Le 6 mai, le changement d'attitude des hommes fait comprendre à Gamble qu'il prépare un sale coup. Ne pouvant les mettre en détention parce qu'il a besoin d'eux, il poursuit ses préparatifs en vue d'une attaque et prévoit d'envoyer par le fond, c'est-à-dire de couler, les 2 navires, le Seringapatam et le Greenwich. Le 7 mai, dans la matinée, une partie des hommes est occupée à calfater, peindre et extraire de l'huile de noix de Bancoul Amma. L'après-midi, alors qu'il surveille l'arrimage des cuves à huile de cachalot sur le Seringapatam, il ordonne à un marin anglais maladroit de reprendre un travail mal exécuté. Celui-ci refuse d'obéir et jette son chapeau en l'air en signe de rébellion. Il est imité par tous les autres qui se saisissent de Gamble et l'enferment sous la cabine, où il est rejoint par les deux aspirants Clapp et Feltus, eux aussi faits prisonniers. Les Anglais ont donc fait prisonnier Gamble et ses deux aspirants. Après avoir poussé trois « hip 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 hooray », les mutins hissent l'Union Jack, le drapeau anglais que vous connaissez tous. Répartis en deux groupes, ils enfoncent des clous dans l'orifice des mises à feu des canons chargés du Greenwich, du Sir Andrew Darmon et du Fort Madison,
afin qu'on ne puisse pas les utiliser contre eux.
Ils déchargent la poudre, vont chercher Robert White, que Porter avait expulsé de l'Essex juste avant son départ. Ils pillent les munitions et les provisions qu'ils embarquent sur le Seringapatam et ils lèvent l'ancre, hissent quelques voiles et le navire commence à s'éloigner vers la sortie de la baie. Gamble et les deux aspirants sont extraits de l'endroit étroit où on les avait enfermés et sont remontés dans la cabine sous la garde d'hommes armés des deux pistolets de Gamble. Il est heureux de voir que pas un seul Américain ne figure sur la liste des mutins au nombre de 13, ce sont tous des Anglais. Vers 8 heures du soir, alors que le vaisseau quitte péniblement la baie, et sans qu'on sache s'il s'agit d'un acte volontaire ou d'un accident, un des gardes tire sur Gamble le blessant au pied. Vers 9 heures, on fait descendre Gamble dans une chaloupe avec les deux aspirants et deux autres hommes. On leur fournit les rames, un baril de cartouches, deux mousquets et une paire de pistolets.
Et on les laisse rentrer à Taiohae par leurs propres moyens.
Commandé par Stivers, son ancien capitaine, le Seringapatam continue sa route pour redécouvrir Rarotonga. Après être passé par l'Australie, il retrouvera la Grande-Bretagne et son propriétaire, de vrais marins ces gens-là. Après avoir ramé et coupé pendant 2 heures, Gamble et ses amis sont de retour au Greenwich, où les marchands de Santal, Ross et Burdenell lui apprennent que Wilson, l'écumeur de grève interprète, était l'instigateur de cette rébellion, clamant par la vallée que les Américains n'avaient plus d'armes et qu'il n'y avait plus à craindre d'eux. Le 8 mai, toute la journée est passée à retirer le matériel et les biens du Greenwich et de les porter sur le Sir Andrew Hammond, que Gamble fait mouiller un peu plus loin dans la baie. Aidé de Wilson, les Enana pillent tout ce qui reste sans surveillance, les vêtements et les mousquets des marchands, une trompette et des cartes marines appartenant à Gamble. vu tout à l'heure que le 8 mai, les Enana avaient pillé tout ce qui restait du camp américain. Le 9 mai au matin, alors que les marins sont en train de charger un radeau de vivres sur la plage, Purdenell vient les prévenir que Wilson se trouve chez lui, le fameux Wilson qui avait servi d'interprète à Porter. Deux hommes armés partent l'arrêter et Purdenell, accompagné de deux aspirants, se rend sur le Greenwich où se trouve Gamble afin de lui rendre compte et obtenir une chaloupe pour ramener Wilson. La chaloupe revient sans lui au bout de 30 minutes car il s'est enfui. Afin de récupérer les biens volés et la poudre, Gamble autorise l'aspirant Feltus, Purdenell et quatre hommes armés à partir à sa recherche vers 11h. 1h30 plus tard, depuis le pont du navire où il se trouve depuis le départ de ses camarades, l'aspirant Clapp remarque la chaloupe retournée dans les vagues
sur la plage de Vainaro,
entourée de nombreux indigènes. Accompagné de Clapp et de deux hommes, Gamble saisit des cartouches, des armes et une torche allumée et il se dirige dans une chaloupe faisant haut, c'est-à-dire percée, vers le Sir Andrew Hammond, ne laissant à bord qu'un invalide. Du navire, on voit les Enana courir dans le camp et emporter tout ce qu'ils trouvent. Gamble tire une première volée de mousquet. Et au moment de tirer une deuxième, il aperçoit deux de ses hommes partis avec Feltus, les bras en l'air, en train de nager dans le ressac, venant vers le navire. Clapp part dans sa chaloupe, pourrie, les récupérer. L'un d'eux a été grièvement blessé à la tête par une pierre de fronde et saigne abondamment. Il raconte qu'ils ont été attaqués par les Enana et que Feltus, Purdenell et les deux hommes ont été massacrés. On apprendra plus tard que le marchand Ross avait réussi à s'échapper dans les montagnes où, après s'être caché quelque temps, un des chefs finit par le prendre sous sa protection. En danger de mort, Gamble comprend qu'il va devoir quitter l'île sur le champ. Il envoie des hommes en chaloupe chercher l'invalide John Pettigrew et des objets personnels sur le Greenwich, tandis qu'accompagné de Clapp, il continue à tirer sur l'ennemi et qu'un autre marin fait son possible pour hisser deux voiles, le Fock et la brigantine, tout seul. Ils doivent tirer au canon sur le fort, où Wilson, aidé des Marquisiens, tente de désenclouer les canons afin de faire feu. Il tente d'enlever les clous qu'il avait lui-même posés. Vers 16h, profitant de la brise de terre qui commence à souffler, Gamble fait couper les amarres des deux navires après avoir mis le feu au Greenwich. Le Sir Andrew Hammond s'éloigne lentement et prend la direction de la haute mer qu'il atteint à la tombée de la nuit, éclairé par l'incendie du Greenwich. Au total, entre les 12 canons du fort et les 20 du Greenwich, Gamble laisse 32 canons à Taiohae. Difficile alors de connaître l'exacte provenance de celui qui trône sur le monument aux morts du village de Taiohae, ou de ceux qu'on trouve dans les autres vallées, mais il est probable qu'ils font partie de ces canons laissés par les Américains. Même si tout cela ne fait pas vraiment partie de l'histoire des Marquises, il est intéressant de savoir ce qui est arrivé à Gamble. Le 10 mai, Gamble est obligé de se séparer de l'ancre et de la chaloupe. Elle traîne dans l'eau et toutes les personnes présentes à bord étant blessées, nul n'est en état de les remonter. Le 11 mai, le seul matelot un peu en forme, Worth, parvient à hisser d'autres voiles. Gamble ne dispose que de 6 cartouches et de 2 hommes en état, lui-même, et les 5 autres sont blessés ou malades. Il décide de faire route vers Hawaï, qu'il atteindra le 23 mai, 10 jours après, sans carte, ni instrument de navigation. Encore un sacré marin. Le 23 mai, après avoir été remis en état, le navire reprend la mer, mais il est capturé le 13 juin par le navire anglais Chérubin du capitaine Philip Pipon. Convoyé de Valparaiso à Rio de Janeiro, il y retrouve une soixantaine d'autres navires américains capturés par les Britanniques. Revenons à Taiohae maintenant. Le 28 août de la même année, au cours d'une longue traque entre les Galapagos et les Marquises, la flotte britannique fait escale à Taiohae et le capitaine Pipon prend possession de Nukuhiva au nom de la couronne britannique. Il est accompagné du capitaine Thomas Staines de la frégate Britton qui, après sa capture, racontera à Gamble la suite des événements lors d'une escale à Valparaiso. Tous ses officiers sont ennemis, mais ils se connaissent. Lors du passage de la flotte britannique en août, Staines apprend que le marchand Ross avait survécu dans des conditions que l'on sait. Il remarqua que tous les canons avaient disparu du fort et que les maisons du village américain avaient été détruites. Mais les restes du navire Greenwich étaient encore visibles et à part quelques bandes de cuivre prélevées, les Enana n'avaient rien arraché à la carcasse. D'après Greg Denning, les Anglais font escale non pas le 28 août mais du 19 août au 2 septembre, ce qui revient au même, Avec Kiatonui, les Anglais tentent d'organiser l'occupation de Nukuhiva suite au passage de Porter. Concernant les quatre déserteurs qui étaient partis en chaloupe, il écrit aussi qu'ils se retrouvent à Eyao. Trois meurent de soif, mais le quatrième survit pendant 18 mois. Et il fut sauvé par Wilson, l'interprète de Porter.
À bord du Briton, commandé par Thomas Staines, se trouve aussi le lieutenant Shillibeer, qui nous a laissé son journal intitulé « Récit du voyage du Briton à l'île Pitcairn », jamais traduit en français. Pendant les 10 jours d'escale aux Marquises, le navire reste quelque temps à Taiohae, où Shillibeer échange son nom avec un chef nommé Patuki, dont il dessine le portrait. Aux côtés de son commandant, Shillibeer visite la vallée et rencontre le chef Kiatonui. Il n'est pas en bonne santé et un serviteur doit le porter sur les épaules. L'anglais Wilson, toujours sur place, leur raconte comment, après avoir vaincu les Taipi, Porter s'était fait proclamer roi. Peut-être. Désireux de rencontrer cette tribu si célèbre par sa férocité, les Anglais se rendent à Taipi Vai, où ils doivent tirer en l'air afin de calmer la foule qui les entoure. Les Taipi apprennent avec joie la défaite de Porter, mais quand les Anglais les invitent à célébrer à Taiohae leur annexion de l'île, ils déclarent ne reconnaître aucune autorité étrangère. Taipi forever. L'Union Jack est dressée devant la maison de Kiatonui, et avant de partir, les Anglais déterrent la fameuse bouteille que Porter avait enterrée sous la colline Tuhiva et qui contenait des pièces de monnaie américaines et sa déclaration d'annexion de Nukuhiva. Après coup, les Anglais quittent Taiohae et passent par Waitahu à Tahuata où ils rencontrent un déserteur de Gamble, le second de Porter, qui se plaint de l'autorité de celui-ci et corrobore les propos de Wilson à propos du couronnement de Porter. Mais celui-ci, Porter, n'est pas là pour s'expliquer.
Cette année-là, à Wapo, les Enana capturent le capitaine Fowler et son navire, le Matilda, qu'ils coulent. Bien que tragique, l'incident a une fin heureuse et des conséquences positives. En effet, un pacte d'alliance de non-agression appelé Kopaake est établi qui prévoit la paix entre les étrangers Haoe et les Enana de l'île. Et c'est le chef de Uapou Nouahitu qui est à l'origine de cette disposition. Cette situation, d'ailleurs, perdurera pendant une 40aine d'années. Chers amis, après les Américains et les Anglais qui se sont appropriés Taiohae, après la fin de la guerre entre les deux pays, leurs navires santaliers vont venir à nouveau exterminer le santal de l'archipel. Ne manquez pas la prochaine émission, au cours de laquelle nous assisterons en plus au retour du pasteur Crook et des missionnaires protestants. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci aux enfants du CSP, Te Toiki CSP de Hakahau à Uopo, pour leur chanson
Hui, extraite de leur CD Tao Eo Mataiki, sortie en juin 2004.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. A bientôt, apai, o oaiho.